toutes et à tous, vous êtes les bienvenus dans Bouquin, le podcast littéraire à l'esprit large du webzine associatif rennais alterinfo.com, à LTER, le chiffre 1.info, ne confondez pas. Et dans l'équipe, on aime, on adore, on vénère le papier, et dans tous ses états si possible. C'est pourquoi on a décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font vivre le support sur Rennes. Donc on va parler dans les podcasts de différentes façons de faire vivre la littérature, et puis on va partager également des coups de cœur, puisque en bon dévoreur de livres, on ne peut pas s'empêcher de parler de ce qu'on lit. Donc pour commencer ce nouveau podcast, cette série, nous sommes partis à la rencontre des acteurs d'un lieu cher à tous les dévoreurs, ou tous les fanatiques de livres de Rennes, les Champs Libres. Donc bonsoir Isabelle.
Bonjour. Bonsoir.
Isabelle. Voilà. Donc est-ce que tu peux te présenter ta fonction dans le lieu un petit peu, et puis ton parcours avant peut-être?
J'ai toujours été bibliothécaire, donc j'ai fait des études d'histoire de l'art, ce qui ne prédisposait pas aux livres, mais finalement j'en suis enchantée. Et je travaille depuis plus de 10 ans au Champs Libres, et j'achète en fait des romans, des albums et des bandes dessinées. Je constitue une partie des collections, celle du 4, le pôle langue et littérature, et celle du pôle enfant.
D'accord, lourde responsabilité.
S'il en est.
D'accord. Quel genre de bibliothèque tu avais travaillé avant de venir?
Alors avant, j'ai travaillé dans une bibliothèque que les Rennais connaissent bien aussi, la bibliothèque du Triangle.
D'accord, ah oui,
voilà, une belle bibliothèque aussi déjà. Qui avant des Champs Libres était déjà une médiathèque, c'est-à-dire tout support, et qui était un mini Champs Libres en fait,
oui,
tout mini.
Oui, c'est ça, mais bon, c'est vraiment ça. Ouais.
Qui était très fréquenté aussi avant l'ouverture des Champs Libres, donc je suis habituée à l'affluence.
C'est ça, on y allait aussi très régulièrement.
Voilà. Ah, je reconnais.
C'est clair, on a fait des découvertes là-bas, c'est clair. D'ailleurs, ça c'était une des problématiques du lieu. Moi j'avais l'impression qu'il y avait un public qui se déplaçait sur place, et je me demandais quelle part du quartier et quelle part de l'externe.
C'était la bibliothèque qui était, toujours une bibliothèque de quartier évidemment, mais qui était celle qui était le moins finalement du réseau, puisque celle présente en plus de supports, plus grand choix aussi, plus grande surface, plus grande collection. Du coup, les Rennais, je pense, de tous les quartiers se déplaçaient,
D'accord.
pour trouver leur bonheur, j'espère, au Triangle.
D'accord. Et du coup, quelle différence tu vois entre le Triangle et les Champs Libres? Il y a la taille, quoi, mais c'est vraiment le même type de...
Ouais, la taille, le rapport au lecteur, évidemment, puisque ça, c'était quand même une bibliothèque de taille plus modeste, où je connaissais plus de lecteurs nommément, et puis dont je connaissais les goûts plus précisément. Donc après on apprend à travailler autrement, donc il y avait une proximité peut-être, c'est sûr, plus marquée quand même avec les lecteurs qu'au Champs Libres, et peut-être un niveau peut-être un petit peu plus d'étudiants ici, je trouve.
Au Champs Libres?
Oui, c'est beaucoup plus d'étudiants. Il n'y avait pas beaucoup d'étudiants en fait au Triangle, en tout cas qui n'est pas d'étudiants qui venaient pour travailler. Donc c'est un public que je voyais beaucoup moins. C'est peut-être les différences, les deux premières qui me viennent comme ça à l'esprit plus rapidement.
T'es la troisième à me dire que le rapport est plus compliqué ici. C'est quoi? C'est l'espace? C'est le type de public?
Pas le type de public. Hein, parce que le public amateur de littérature est bien élevé. Donc c'est un public agréable. La bibliothèque du Triangle, c'est peut-être un public plus divers, en ce sens qu'il n'y avait pas que les amateurs du livre, en fait, il y avait aussi des amateurs, donc peut-être un public plus diversifié. Mais c'est la proximité, la connaissance du public, parce que je fais moins de services publics, j'ai peut-être un temps en interne, je parle peut-être en charabia, mais dans mon bureau, j'ai plus d'heures dans mon bureau que j'avais au Triangle, donc je connais un peu moins de lecteurs. Mais bien que j'ai des habitués, des gens avec qui je converse tous les jours, j'ai aussi des habitués, mais j'en avais plus certainement au Triangle. Ouais. Ça c'est l'aspect bibliothèque de quartier, des gens qui viennent quasiment tous les 10 jours parce qu'ils sont à côté, des enfants que je voyais tous les jours après l'école, donc là évidemment j'ai pas ce
public. Rituels,
Des rituels, des habitudes du quotidien.
Le Champs Libres, on y va plus, ça c'est pas le même usage quoi.
Non, c'est pas le même usage.
D'accord, ok. Et du coup, tu es là depuis 10 ans, donc quelle évolution tu vois sur le lieu par rapport à ces 10 ans?
Mon pôle n'a pas changé depuis 10 ans, il va changer l'année prochaine, donc là attention, ça va être le grand, on va rebattre les cartes.
Le quatrième étage?
Oui.
Ah oui, d'accord.
On va fermer, attention.
Ça va être fermé?
Oui, 4 mois.
Comment on va faire?
On va vous manquer.
On va faire des réserves avant. comme les écureuils.
Ouais, donc là, on va réaménager le pôle avec plus de salons, plus de peut-être voilà un aspect un peu plus convivial, peut-être moins étudiant justement, quand même. D'accord. Une biotech qui a un caractère peut-être un petit peu universitaire. Hein, mmh. Mais
ouais, c'est ça, les lignes de table, ça fait ça, quoi.
Oui, les
ouais.
livres, des étagères de livres et des tables, bon, bah, mmh. voilà. Hein.
Ouais, d'accord.
Donc là, ce sera peut-être un peu plus chaleureux, on l'espère, en tout cas.
Ok.
Donc, non, j'ai pas remarqué tant d'évolution que ça, en fait, en 10 ans.
D'accord.
Ouais, toujours autant d'amateurs de séries.
Au niveau du public,
non,
il n'y a pas de...
Ouais. De non, je... Ouais, non, je perçois pas, ou alors... ouais, ça bouge tellement lentement que je m'en rends même plus compte.
D'accord.
Non, j'ai pas perçu de changement notable au niveau du public, non.
Ok.
Et sur le choix des livres, pardon, tu vas pouvoir refaire au micro, mais sur le choix, pardon, sur le choix des livres, comment ça se passe en fait, puisque c'est toi qui choisis les livres en fait.
Alors je suis pas toute seule, j'achète oui. jamais toute seule. C'est ça, c'est une particularité de ce qu'on appelle la fiction. On est 5 acquéreurs.
D'accord. Ouais. Ah ouais.
Donc on n'achète jamais tout seul. Alors évidemment, on ne lit pas tout. Ça, c'est toujours la
j'imagine.
Question. Je lis toutes les BD quand même et tous les albums pour enfants.
Ah ouais, quand même, déjà.
C'est déjà pas mal. Hein.
Ouais.
Mais sinon, évidemment, les romans, c'est impossible.
C'est
donc
ouais.
bon, tout le secret...
T'arrives à lire des romans quoi.
Ah oui, j'en lis,
ouais.
mais
ah,
pas tout ce que j'achète, loin de là.
D'accord.
Mais le secret, c'est de très bien connaître le milieu éditorial, les lignes éditoriales de chaque éditeur, les œuvres, enfin le parcours de chaque auteur, enfin chaque auteur, un maximum d'auteurs pour reconnaître un sujet innovant dans son œuvre, ou bon, de faire énormément de veilles documentaires, donc c'est-à-dire alors, de lire enfin, de lire des revues littéraires, ou des émissions de radio, d'écouter des émissions de télévision, voilà, lire un maximum de critiques. Alors, il y a un appareil critique assez conséquent pour la littérature adulte, donc bon, on peut s'appuyer dessus. Bon, dessiner aussi, on trouve,
ouais,
la littérature jeunesse est beaucoup moins vraie.
Oui, c'est vrai.
Donc, il faut bien connaître le milieu, ça vient en forgeant, hein, comme on dit.
Et puis la masse est tellement énorme en littérature de jeunesse que...
Oui, ouais, mais bon, ça, bah, bon, faut avoir là, un peu de bouteille, ce que j'ai. Donc, on connaît bien chaque maison d'édition à sa
oui,
ligne.
Bien sûr.
Bon, on connaît les auteurs. On connaît très bien, moi j'ai 10 ans d'expérience, où du coup je sais reconnaître des sujets bateaux, des sujets innovants, des
d'accord.
approches intéressantes. Donc je connais bien aussi la collection, donc on achète en fonction de ça.
D'accord.
Si on a 15 livres sur les châteaux forts, il va falloir que le 16e soit innovant, sinon on ne va pas l'acheter. Donc voilà, ça c'est le métier. Hein, ouais.
D'accord. Mmh. Et vous débattez des achats?
Ah oui, on débat,
ah
oh là là,
ouais.
on s'engueule, sinon c'est pas drôle, c'est toujours moi qui gagne, donc je plaisante. Oui, on débat, ouais, ouais.
D'accord.
Bon, après ici on a beaucoup de chance parce qu'on a des sous, c'est le nerf de la guerre, on a quand même un budget, les Rennais ont cette chance d'avoir...
Oui, mais on voit sur que les bibliothèques...
Donc on peut faire plaisir à tout le monde, c'est ce qui est intéressant en fait.
Et puis il y a le réseau, la force du réseau, ça c'est génial, quoi, parce que vous avez un bouquin, il n'est pas là...
Oui, on le trouve, on peut le proposer ailleurs. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de... Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est cette gymnastique de ne pas acheter pour soi-même, de ne pas faire sa propre bibliothèque,
ouais.
et d'être capable de comprendre quel est un livre pertinent dans le roman historique, même classique, le crypto-truc, comme je
d'accord.
dis à Da Vinci Code, voilà, mais qui est un peu plus pertinent, ou
d'accord.
les livres légers, voilà, faciles à lire, dans chaque registre de production. Comprendre quel est le livre le plus intéressant dans ce registre.
Dans ce registre.
Voilà, ouais, et pas d'acheter que... c'est très important, je trouve, de savoir se détacher de ses goûts personnels. Et moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant et peut-être spécifique à une bibliothèque comme les Champs, justement. Parce que c'est un public varié, large, et c'est ça qui est stimulant intellectuellement, je trouve, d'avoir cette gymnastique.
Oui, c'est toute la différence avec des chroniques.
Ou un libraire,
comme nous,
par exemple, un libraire peut très bien choisir d'avoir sa propre ligne éditoriale. Et c'est un choix aussi, ce qui est sûrement très intéressant, parce qu'on creuse un sillon, où on prêche aussi, enfin, on parle de ce qu'on adore, donc c'est aussi porteur. Hein. Mais ici, bon, c'est une autre gymnastique qui est intéressante aussi, je trouve.
Et puis c'est un autre lien avec le
lecteur,
autre lien, en fait.
Ouais. Et comprendre. Voilà, ce dont a besoin ou envie un lecteur à tel moment de sa vie, parce qu'on chemine aussi. Hein. On ne lit pas les mêmes choses toute sa vie.
D'accord. On va enchaîner avec ton coup de cœur.
Ah, mon coup de cœur.
On est curieux maintenant.
Ah, ouais. Alors si je vous dis Monsieur Toussaint Louverture.
Ah bah oui,
voilà.
Bon, ah, c'est gagné.
Un très bon éditeur bordelais.
C'est de ceux qu'on a chroniqué ou pas.
Chroniqué.
Ouais, j'adore cette éditeur.
Alors j'espère que je ne vais pas vous marcher sur vos plates-bandes en parlant
c'est
de...
C'est pas grave, il n'y a aucun
c'est
problème.
C'est pas grave, ouais. Un livre qui s'appelle Watership Down de Richard Adams.
Très bien. parfait.
Voilà, donc je pense que c'est un roman qui ne pouvait être que britannique, parce que déjà il nous propose deux lapins pour héros. Donc,
c'est ça.
Alors après le célèbre lapin d'Alice, hein, le fameux Peter Rabbit de Beatrix Potter, voici les deux frères Fever et Hazel. Alors leur garenne, il se trouve qu'elle est menacée de destruction par des promoteurs immobiliers. Et alors ils décident de partir et prennent la tête d'une colonie de lapins en quête d'une terre promise. Leur odyssée, pour notre plus grand plaisir, sera périlleuse évidemment et pleine d'aventures. C'est plus drôle. Et tout comme Tolkien, Richard Adams parvient à créer un véritable monde.
C'est vraiment épique,
ouais. Ouais, avec son propre vocabulaire, son histoire, sa mythologie propre. Et tel qu'Orwell et sa ferme des animaux, il dépeint une société animale pour mieux parler de la nôtre. Du pouvoir, des différents types de régimes politiques possibles. Ce classique de la littérature anglo-saxonne a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires, et hélas, n'a pas trouvé beaucoup de lecteurs français.
Et non.
Voilà, donc il n'est pas trop tard, à vous de lire.
Un grand classique. Et ben, on vient juste de chroniquer, je crois que c'est aujourd'hui que j'ai dû le mettre, et c'est comme ça que j'ai décidé de tuer mon oncle, qui est la deuxième,
qui est une dernière parution,
voilà, qui est la dernière parution pour jeunesse chez Monsieur Toussaint Louverture.
Très anglaise aussi, je
pense. C'est très anglaise. C'est une canadienne, mais c'est extrêmement
anglo-saxon
dans l'esprit. C'est vraiment cet humour noir, sombre, gothique, tout ça avec des enfants, c'est absolument merveilleux.
Oh bah voilà, donc après avoir lu des histoires de lapins, des histoires d'enfants.
Donc c'est Lisanne qui nous donne son coup de cœur.
Je me colle à mon coup de cœur qui n'a rien à voir avec les lapins. Et
Mais il y a de la forêt.
C'est canadien aussi, puisque c'est David Morel qui a écrit en fait un roman qui est sorti en 72, qu'on connaît plutôt sous sa version filmique, hein, parce que c'est Rambo en fait.
Voilà.
Et donc, quand le roman est sorti en 72, il est aussi publié en France en fait sous son titre original qui est Premier sang. Voilà, donc c'est l'histoire de Rambo, hein, vous la connaissez toutes, toutes et tous. Sauf que,
on a une mauvaise image de l'histoire de Rambo.
Voilà,
en fait.
Et en fait, moi je n'avais pas vu le film avant de lire le livre.
Ah oui, il faut voir le film, vous pensez connaître le film, il faut le voir vraiment.
Voilà, et donc j'ai vu le film après avoir lu ce fameux bouquin. Et j'ai été très déçue par le film, mais ça n'a rien d'exceptionnel. mais par contre, le bouquin, finalement, est très très subtil hein, par rapport à ce qui est à cette espèce de duel entre ces deux hommes. Donc le Rambo, qui est donc ce vétéran du Vietnam qui revient aux États-Unis et qui est un peu un espèce de hobo qui traîne dans les rues. Et cet officier, enfin ce shérif qui ne veut pas de lui sur son comté et qui, donc il y a toute une histoire, voilà, dans la forêt, etc. Et c'est vraiment un bouquin qui est surprenant. Enfin, voilà, je suis très, très contente de l'avoir découvert et de l'avoir lu avant d'avoir vu le film. Voilà. Et donc j'ai beaucoup ri quand j'ai vu le film, mais c'est vraiment un roman surprenant. Et qui parle du Vietnam, évidemment, et de tout ce qui s'ensuit. Voilà, donc vraiment, par contre, âme sensible, s'abstenir, hein, parce que c'est assez violent et ça finit mal.
C'est ça.
Voilà, mais bon, ça peut intéresser certaines personnes.
Donc Rambo, alors, de David Morel.
Oui, David Morel, chez Gallmeister.
Et donc avant Watership Down, culte à lire absolument chez Monsieur Toussaint Louverture, comme tous les livres de Monsieur Toussaint Louverture. Merci.
De rien.
Au revoir.
Merci.
À bientôt.